King Nomad.
Bonjour, je suis Camille Deslauriers. Bienvenue à l'émission Sous l'influence des livres, le volet Rimouski de Parking Nomade, enregistré à l'Université du Québec à Rimouski. Ce mois-ci, à l'émission, nous avons le très grand honneur de recevoir M. Dany Laferrière. Dany Laferrière, qui a publié, vous le savez sans doute, plus de 22 livres, qui a été élu à l'Académie française en décembre dernier. Il est venu à l'UQAR comme invité d'honneur d'une nuit d'écriture organisée par nos étudiants, les étudiants du baccalauréat en lettres et création littéraire, et il nous a fait le plaisir d'accepter de venir nous rencontrer. Je vous propose donc de déroger un peu à nos habitudes. Toute l'émission lui sera consacrée aujourd'hui. Dans un premier temps, il va nous parler d'écriture et de lecture, et plus précisément de son dernier livre, « Journal d'un écrivain en pyjama », publié en 2013 aux éditions Mémoires d'Encrier. Dans un deuxième temps, suivant notre tradition, et aussi pour rester fidèle à ce qu'indique le titre de notre émission, nous allons reparler avec Dany Laferrière pour aborder ses lectures phares et l'influence de certains livres ou certains auteurs marquants dans sa démarche d'écrivain. Ensuite, nous reviendrons un peu sur ce qui s'en vient pour lui et sur son statut d'immortel. En fin d'émission, nous aurons le plaisir d'entendre un extrait des chroniques « Journal d'un écrivain en pyjama », un extrait qui sera lu par mon collègue Martin Robitaille. Alors, avec beaucoup d'émotion, nous accueillons aujourd'hui M. Dany Laferrière. Bonjour Dany et bonjour. Bienvenue à l'émission. Bonjour. J'aimerais d'abord vous féliciter chaleureusement au nom de notre équipe d'animateurs, de toutes nos auditrices et nos auditeurs et de tout le personnel de l'Université du Québec à Rimouski pour cette élection à l'Académie française. Félicitations.
Merci.
Avant de vous poser des questions précises sur Journal d'un écrivain en pyjama, j'aimerais qu'on aborde votre motivation à écrire un tel livre de chronique. Je suis prof de création littéraire ici à l'UQAR et je travaille avec des jeunes qui veulent écrire. Et dans ce livre-là, vous donnez 202 conseils qui constituent une véritable mine d'or pour les auteurs de la relève. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé, vous, précisément, à écrire un livre comme ça?
Je sais pas, j'ai toujours... J'étais intéressé par le fait d'écrire comme le fait de lire. Et je trouve que ce sont des choses qui se ressemblent. Et j'aime la mécanique des choses. Je voulais savoir un peu qu'est-ce qui sous-tend ce goût d'écrire, ce désir d'écrire, puisque je n'arrive pas à avoir une explication très, très précise. Pourquoi j'écris, pourquoi ma vie, un tiers de ma vie,
oui,
assis seul à écrire, c'est très étrange. Alors je me suis dit peut-être qu'il fallait plonger dans cette mécanique-là, descendre, comme je l'ai dit, dans la salle des machines.
Oui. Voilà.
Comment cela se fait, et peut-être rêver d'avoir une idée de ce qui se passe. Naturellement, je suis revenu bredouille. Hein.
et tout ce qui m'a resté, non, je crois pas.
C'est les idées, et c'est comme si pour comprendre la chose, il a fallu refaire la chose elle-même,
oui.
Et qui finalement ne nous explique pas grand-chose. Alors j'ai voulu voir que ce que le jeune homme que je fus aurait
oui.
gagné à connaître ces petits trucs quand j'ai commencé à écrire. Et donc c'était pour moi-même, pour l'écrivain que je fus, et qu'il est trop tard, précisément, malheureusement. Et donc je crois que peut-être ça pourrait aider, servir... à quelqu'un d'autre.
Ah, tout à fait. Les auteurs de la relève, je pense, en lisant ce livre-là, gagnent de précieux, vraiment précieux conseils sur l'écriture et sur la lecture aussi, comme vous dites. J'aimerais aborder une autre question qui touche la vision du monde de l'écrivain. Hein. Vous en parlez beaucoup dans ce livre-là. À la page 47, vous écrivez « On n'écrit pas pour impressionner les autres, mais pour découvrir en même temps que le lecteur notre façon de voir le monde. Il faut écrire au plus près de soi. » Et à la page 74, vous dites aussi « On écrit au plus près de soi, c'est ce qui nous rapproche le plus des autres. » Qu'est-ce qu'on doit entendre par écrire au plus près de soi? Et comment on fait pour y arriver? Parce que ça ne veut pas nécessairement dire raconter sa vie.
Non. En fait, vous savez, on raconte les mêmes histoires. Et qu'est-ce qui fait qu'une histoire et a des réverbérations sur les autres personnes, et une autre tombe à plat comme une anecdote insipide ou qui ne concerne que la personne. Et bien c'est ça, c'est pour moi, je compare la culture avec la cuisine dans ce sens-là.
D'accord.
Ce qui fait qu'avec les mêmes ingrédients, quelque chose qui touche tout le monde, on a tous envie de manger et que ça dégage une chaleur communicative avec les autres. Et puis, un autre, c'est plat. Donc, on n'en sait rien jusqu'à présent. Et on a dit beaucoup, c'est le travail, il faut travailler. Quand on veut 10% de travail et 10% d'inspiration, et on a dit le contraire aussi, beaucoup d'inspiration et des choses. Et j'arrive pas à savoir. Mais je crois que ce plus près de soi doit venir de quelque chose autre que l'écriture. Et c'est peut-être la lecture qui peut donner cette ouverture, aller chercher chez les autres, à force d'y aller et d'aller attentivement, parce qu'il y a une façon de lire aussi.
Oui.
Et qui n'est pas uniquement dans l'insouciance ou pour le divertissement, on finit par intégrer l'autre en soi. Et là, sans effort, on peut arriver à lui parler. C'est-à-dire, quand je dis au plus près de soi, mais on est tellement beaucoup d'autres.
Merci. J'aimerais aussi qu'on aborde la question du juge intérieur qu'on porte en soi, parce que ce juge-là peut parfois presque devenir un censeur personnel au début quand on écrit. Et c'est un problème sur lequel les jeunes auteurs de la relève nous questionnent souvent. Vous écrivez « N'écoutez pas ce critique en vous. Il a trop lu, il est trop intransigeant pour ce jeune écrivain qui tente de quitter son nid. Faites-le taire, bouchez-vous les oreilles et continuez obstinément à traquer la bête lumineuse. » Et plus loin, vous ajoutez « Plus tard, il sera votre plus fidèle allié ». Alors, comment ça s'est passé pour vous? À partir de quand le critique intérieur est-il devenu un allié dans votre production? Après le premier livre, après le deuxième, qui est souvent le plus difficile à écrire, après le troisième?
Non, moi je venais d'une génération, mais une façon d'aborder la littérature qui existe beaucoup moins maintenant. Et quand je vois les blogs où tout le monde a une opinion avant d'avoir une réflexion, et moi je venais d'une littérature où je lisais en toute innocence. N'importe quel livre m'était supérieur. Et quand je le lisais, j'apprenais, je m'ouvrais au monde, et je prenais pour acquis tout ce qu'on me proposait. Et donc, je n'avais pas du tout un goût de juger les gens. Et quand je vois ce que n'importe quel... Chaque fois que je vois quelqu'un juger quelqu'un comme ça avec une telle arrogance, une telle facilité, je me dis, bon Dieu, il ne sait pas qu'il est en train de nourrir un monstre qui va le détruire lui.
Oui, tout à fait.
Parce que ce n'est pas impunément que vous avez des opinions sur des gens. L'idée même, quand vous voyez un livre, dites-vous bien qu'il y a beaucoup de douleur derrière, quel que soit, qu'il soit bon ou mauvais. Et dites-vous bien que ce n'est pas facile de faire en sorte que cet objet-là soit sur votre table. C'est carrément un miracle, quel qu'il soit. C'est-à-dire l'écrire, le rêver, trouver quelqu'un qui le publie, ensuite le diffuse, ensuite une librairie, et quelqu'un qui l'achète.
Oui, tout à fait.
Parce que la concurrence, elle est pire que pour les disques et pour n'importe quelle autre forme d'art. Parce que les disques, vous n'avez pas les chanteurs de l'époque de Homer. Et ils ne font pas concurrence quand vous entrez chez Archambault. Et pour les livres, Homer est toujours là, Socrate est là, et tout le monde est là, et traduit aussi.
Oui.
Et donc la concurrence est féroce. Donc si vous passez votre temps à juger les autres, vous serez jugé par un critique impitoyable, et vous ne pourrez pas faire appel à sa compassion. Donc je dis, commencez d'abord par avoir, c'est pas de l'humilité, pas du tout, l'intelligence. De comprendre qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de plus grand que vous jusqu'à présent là.
Oui.
Et pénétrer dans son monde. Et ne vous inquiétez pas, c'est un autre livre qui jugera ce livre-là. Et tout est toujours jugé malheureusement. Et l'autre livre qui vous passionnera plus, eh bien, il juge le précédent. Donc, ne vous inquiétez pas pour le jugement si vous aimez ça. Eh bien, ce livre sera jugé par un autre livre.
D'accord.
Et y aller. Et peut-être, ça baissera le ton de votre critique intérieure. Et quand vous aurez besoin de lui, il se fera plus compatissant.
D'accord. Merci beaucoup, Dany, d'avoir répondu à mes questions sur l'écriture et sur votre livre journal d'un écrivain en pyjama. sommes de retour avec Dany Laferrière pour le deuxième segment de notre émission. Dany, à la page 79 de Journal d'un écrivain en pyjama, vous affirmez que pour connaître un écrivain, il faut visiter sa première bibliothèque. Et on est curieux. Qu'est-ce qu'il y avait dans votre première bibliothèque sur cette, et là je vous cite, première petite étagère au-dessus de votre tête dans la grande maison de Petit Coave?
Ah bien, qu'est-ce qu'il y avait dans cette première bibliothèque? Mais j'avais dit, il faut visiter sa bibliothèque en général. Et la bibliothèque se fait aussi tout le long d'une vie. Là. Oui. Nous sommes dans une bibliothèque personnelle, individuelle, là. Et celle de
Joseph Charles Taché.
Oui. C'est toujours fascinant de voir la bibliothèque de quelqu'un. Oui. On chemine dans son esprit, et tout à fait. Et bon, maintenant, si on a là à cette première bibliothèque, sur la petite étagère, je pense qu'il y avait un roman de Maurois. Mm-hmm. Et que j'ai lu en état de grâce, puisque sans le savoir, j'avais bu un cocktail qui est alcoolisé, c'était la première fois, et j'étais complètement sous. Et il y avait aussi des Dumas, et il y avait aussi des Evaco, et c'est un écrivain un peu oublié, mais mm-hmm. qui est comme Dumas, très vif, très coloré. Il y avait des livres religieux, il y avait une Bible, que j'ai lu de fond en comble. Ou l'Ancien Testament, ou encore l'Apocalypse. Je me souviens d'avoir lu l'Apocalypse, complètement impressionné. Et puis étonné, parce que quand même, il y a beaucoup trop d'imagination.
Oui, d'images, de métaphores.
Ah, les images sont extraordinaires. Mm. Il y a le taureau, il y a sur chaque corne, quelque chose comme ça. Il y a c'est comme des mondes qui se tiennent sur des choses tout à fait minuscules. Et donc ça m'avait impressionné, la Bible que j'ai lu un jour depuis où j'avais plus rien d'autre à lire. Il y avait aussi, je crois, des ouvrages de la Tour de Garde, Réveillez-vous, enfin des trucs un peu de religieux. Et c'était très hétéroclite, la Comtesse de Ségur aussi, et je me souviens pas d'autres. Ah oui, et c'est Quentin Durard, et je ne sais pas qui avait écrit ce livre, et lequel les écrivains, je ne crois pas que ce soit Kipling, mais c'est une histoire comme ça. Il y avait Capitaine Courageux aussi, et de Kipling par exemple, que j'avais beaucoup aimé aussi et qui m'avait impressionné, que j'avais lu dans L'innocence totale, et avec un petit brin de recherche mécanique, tout enfant, j'étais très impressionné à l'idée d'avoir cette sensation d'être en pleine mer sous une tempête au large de Terre-Neuve, j'avais l'impression d'entendre le bruit de la mer, le grondement des vagues et l'odeur de la mer. Et ça, tout ça a été fait avec des mots, des lettres, de l'alphabet. Ça m'avait impressionné. Je voulais à chaque fois savoir comment ça se fait.
Comment ça se fait. Donc, c'est réel.
J'ai eu le mal de mer. Comment ça se fait? Donc, il y avait ça dans cette petite bibliothèque. Donc, des livres et de l'enfance, mais aussi grand public. Il y avait aussi des livres de Stevenson, et je pense, et L'île au trésor, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, et enfin d'autres livres comme ça, mais pas tant que ça, peut-être une dizaine, une quinzaine.
D'accord, c'est fascinant, merci beaucoup. Dans le même sens, vous écrivez, on sait bien que les livres qu'on a lus continuent à cheminer longtemps en nous et qu'ils nous forment d'une certaine manière. Si on vous demandait quels sont les livres les plus importants qui vous ont formé, quels seraient ces livres?
Ah ben, tout à l'heure, on a parlé de ça, il m'a dit que je ne répondais pas.
Oui, je sais bien.
Mais vous l'avez posé avec un ton tellement modeste, quels sont les livres les plus importants qu'on ne peut pas ne pas répondre. Et je ne sais pas comment un livre devient important pour un écrivain. C'est très étrange, c'est comme une rencontre.
Oui.
D'abord, on n'a pas tout lu, personne n'a tout
non,
lu. Donc on ne peut pas savoir si les livres qui auraient dû être importants ne sont pas encore lus. Mais il se trouve que cela ne tient pas uniquement au talent. Il y a une catégorie de livres qui m'importe beaucoup, c'est ce qu'appelle les livres amis. C'est des livres où on a l'impression que l'auteur nous parle tout doucement, tout à côté, qu'il n'y a aucune espèce d'esbouffe. C'est des livres consolateurs.
Oui.
Ça console, je prends ça quand je me sens. C'est des livres qu'on relit.
D'accord.
Parce qu'on sait qu'il n'arrivera rien de mal. Et tout est dans l'état d'âme qui est raconté comme ça, et pas plus, et avec insouciance. Et comme par exemple, c'est un livre de Miller. Et j'aime beaucoup Miller parce que Henry Miller, il a une façon de nous faire comprendre, de nous faire accepter, aimer la vie. Dans ces livres, il n'y a pas cette nature ombrageuse que je trouve, que j'aime bien aussi, et que je trouve dans les livres de Régent Ducharme, on sent là, ou de Salinger, on sent que le monde est jugé.
Ouais.
C'est-à-dire, les adultes sont mous, ils sont pas bons. L'enfant est dur, c'est le noyau, il est vrai. Enfin, ça me stresse, ce genre de division, d'une certaine recherche de pureté et dans le monde. Je préfère Miller quand il est assis à la table d'un café et qu'il prend son petit ballon de vin et qu'il jette un regard si neutre sur le monde. Il accepte le bon et le mauvais, le mal et le juste, et les petites anecdotes et tout se passe dans le même mouvement. Il y a des livres qui nous impressionnent, qui m'ont impressionné. Par exemple, j'ai dû attendre longtemps avant de lire La guerre et la paix, ou Guerre et paix.
Oui.
Maintenant, il l'appelle La guerre et la paix, j'aime pas ça. Guerre et paix de Tolstoï, parce que précisément, il a ce regard bovin.
D'accord.
Tolstoï est un stupide, c'est une vache qui regarde le monde. Il n'y a aucune, rien, tout est égal. Et c'est ça qui donne sa force. C'est-à-dire, ce n'est plus le narrateur qui est dans un angle qui regarde le monde, c'est le monde qui passe devant. D'ailleurs, quand on passe, le train passe devant une vache, on ne sait pas si c'est le train qui regarde la vache ou la vache qui regarde le train. Il y a quelque chose de tout égal, qui est de l'ordre des dieux. Et c'est pour ça que la caméra de Tolstoï, la force de Tolstoï, il est indépassable, parce que précisément, il regarde d'un point de vue animal le monde. Et moi, il me faut du temps pour les lire aussi. Il faut ajouter, on parle de lecture, il faut ajouter le temps pour lire. Et aussi, c'est pour ça que les gens jugent beaucoup, c'est parce qu'ils n'ont pas de temps. Quand on n'a pas de temps, on juge. Parce que quand on a le temps, on tombe dans des détails, dans des interstices, dans des trucs, on se fait absorber par un univers et on ne peut plus juger si on n'en fait pas.
D'accord. Merci beaucoup. Enfin, je voudrais terminer notre entrevue en osant une question peut-être plus audacieuse. Dans l'art presque perdu de ne rien faire, il y a une chronique sur le temps de la mort et l'immortalité. Je l'ai relu récemment, puis compte tenu de votre nouveau statut d'immortel, il y a une phrase qui prenait tout d'un coup un autre sens. Vous y écriviez « En faisant de quelqu'un un immortel, on le rend plus mort que jamais, puisqu'il vit beaucoup plus dans les médias que dans le cœur des gens. » Vous, Dany Laferrière, qui êtes dans le cœur des gens, comment allez-vous vous en sortir pour ne pas mourir en tant qu'immortel et pour rester toujours aussi vivant dans le cœur des gens?
Mais il ne faut pas penser à la mort d'abord.
Non, je sais bien.
Il ne faut pas penser à la mort. C'est-à-dire, si on veut être immortel, il faut être d'accord de mourir. C'est précisément, c'est ça le nœud de l'affaire.
Oui.
Et les mortels, ils ne veulent pas mourir. C'est précisément, c'est le nœud de l'affaire. Il suffit d'accepter la mort pour que tout devienne fini. Et si on doit mourir, la journée devient plus longue. Et tout devient infini, précisément. Au contraire, même dans ce même livre, j'avais parlé de... Si on veut atteindre l'immortalité, puisque les humains veulent atteindre l'immortalité, il faut accepter d'être présent dans tous les autres humains et qu'on devienne l'homme et la femme, comme on dit le bœuf et la vache, l'âne, le cheval, le chien. Si on ne devient pas un thème comme ça, si tout autant que notre moi devient si présent, si puissant, eh bien ce moi-là mourra. Mais si on devient générique, il n'y a pas de problème du tout.
D'accord.
Interchangeable. À ce moment-là, on est responsable de tout ce qui a été fait avant nous, et puis on est absolument complice de tout ce qui se fera après nous, et donc on est immortel.
D'accord. Et c'est une belle façon justement de rester près, d'être avec les lecteurs que d'écrire et de continuer à écrire et d'être lu finalement.
D'être lu et aussi de croire que ce qu'on a fait avec ce qu'on a lu, et d'autres feront avec ce qu'ils ont de nous. Et comme dit Borges, ce qui est bien n'appartient à personne, il appartient au langage et à la tradition.
D'accord. Merci infiniment, Dany Laferrière.
Merci.
Merci beaucoup à notre prestigieuse invitée, Dany Laferrière. J'aimerais également remercier mes collaborateurs, qui sont parfois aussi mes co-animateurs, Claude Lacharité, Martin Robitaille et Catherine Gosselin. Merci également à David Lepage et Dany Lemay à la technique. Je vous rappelle que l'émission « Sous l'influence des livres » a été enregistrée à l'Université du Québec à Rimouski. Chères auditrices et chers auditeurs, au plaisir de vous retrouver le mois prochain.
La bibliothèque. On demande toujours à l'écrivain d'où il vient. L'individu vient du pays où il est né. Le citoyen peut choisir le pays où il veut vivre. Le pays de l'écrivain est plus complexe. Il vient d'un lieu qui serait l'endroit où il a passé les premières années de sa vie. Pour beaucoup d'écrivains, l'enfance est un lieu idéal. On peut parfois comprendre certains choix de sujet d'un écrivain en découvrant quel genre d'enfance il a eu, heureuse ou malheureuse. On sait aujourd'hui que l'enfance est un sujet aussi imaginaire que les passions des dieux de l'Olympe. Mais, en supposant qu'elle existe, nous dirions alors qu'elle a un impact déterminant sur le reste de la vie. L'écrivain habite aussi ce pays rêvé, où il a l'habitude de se réfugier pour échapper à la menaçante réalité. Richard Brautigan a écrit un joli roman, Un privé à Babylone, qui met en scène un détective si minable qu'il doit emprunter un revolver et qui, de plus, fait faillite parce qu'il passe trop de temps à Babylone où il lui arrive de s'échapper au milieu d'une enquête dans le monde réel. Babylone est cet endroit où il va quand tout va trop mal ici. De quoi je parlais avant de filer à Babylone moi aussi? Ah oui, je disais que pour vraiment connaître un écrivain, il faut aussi visiter sa première bibliothèque. Pas besoin que ce soit une grande affaire. Combien faut-il de livres pour que l'on considère que c'est une bibliothèque? Au moins 10, je dirais. C'est exactement le nombre de livres qu'il y avait sur cette petite étagère au-dessus de ma tête, dans la grande maison du petit Goave. La maison de l'enfance est toujours trop grande. C'est là que toute ma sensibilité d'écrivain s'est formée. Bien sûr, il faut ajouter le paysage, qui comprend les plantes, les gens et les animaux. Je lisais couché sur le dos, dans le petit lit, sous la penderie. À cette époque, je lisais déjà en écrivain, me demandant, anxieux, comment l'auteur avait fait pour me refiler en douce tant d'émotions.